VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 15 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Les titres pour commencer, le sommet États-Unis-Afrique prend fin aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a plaidé hier pour un partenariat renouvelé avec le continent africain. Le Maroc battu par la France qui rejoint l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de football 2022. En RDC, au moins 10 morts dans une nouvelle attaque des ADF en Ituri. Au Soudan du Sud, au moins 166 civils tués dans des violences en 4 mois. Au Sénégal, le journaliste Pape Alé Niang remis en liberté. Le sommet États-Unis-Afrique prend fin aujourd'hui. Depuis mardi, près d'une cinquantaine de chefs d'État africains et de chefs de gouvernement sont à Washington à l'invitation de leur homologue américain Joe Biden qui a plaidé hier pour un partenariat renouvelé en annonçant plusieurs programmes d'investissement sur le continent. Abdulrahman Dia fait le point.
Le chef de l'exécutif américain a choisi la journée consacrée aux entreprises et aux affaires pour venir s'exprimer aux participants. Il a réitéré l'engagement de son administration en énumérant les nombreux investissements et programmes dont le Prosper Africa qui vise à mobiliser des dizaines de milliards de dollars pour le continent dans les années à venir. Pour Joe Biden, l'importance de l'Afrique dans l'échiquier mondial explique son intérêt pour le continent.
Nous ne pouvons résoudre aucun des défis sans le leadership africain à la table. Et je n'essaye pas d'être gentil. C'est un fait. Les idées et l'innovation africaine contribuent à façonner les solutions. Et la population africaine contribue à chaque étape.
L'une des grandes annonces du président Biden est la signature d'un protocole d'accord avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine pour faciliter les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique.
Nous mettons finalement en place la zone de libre-échange continentale africaine. Il va représenter l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, 1,3 milliard de personnes et un marché continental totalisant 3,4 milliards de dollars.
Plusieurs compagnies comme Microsoft, Cisco, Pfizer et Mastercard ont annoncé hier des investissements de plusieurs millions de dollars en Afrique. Le président Biden prononcera un autre discours ce jeudi lors d'une rencontre sur la sécurité alimentaire, l'un des derniers événements avant la clôture du sommet ce soir.
En marge de ce sommet États-Unis-Afrique, la diaspora africaine s'est donné rendez-vous devant la Maison-Blanche pour faire entendre sa voix dans une manifestation. Le leader de l'opposition au Tchad, Succès Masra, a participé à une telle manifestation qui visait à dénoncer l'invitation adressée par le président Joe Biden au général Mahamat Idriss Déby, président de la transition au Tchad. Ce dernier, selon les protestataires, n'ont pas tenu sa promesse de céder le pouvoir aux civils. Au micro de Koy Gwaringa, écoutons Succès Masra, leader du parti politique tchadien, Les Transformateurs.
Nous nous sommes déjà rencontrés plus de 8 fois. Pourquoi nous ne nous sommes pas entendus? Parce qu'il veut 2 mandats de 6 ans après la transition, peu importe les résultats des élections. Il demande que je souscrive à un plan de succession dynastique. Ce que j'ai refusé. Ce que notre peuple refuse. Et donc, ceci n'est pas défendable. Il revient à la raison et qu'il renonce à cet engagement. En tout cas, il retrouve l'engagement qu'il a pris devant notre peuple à ce moment-là. Alors il trouvera quelqu'un qui aime le dialogue à ses côtés. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que le choix entre la dynastie et la démocratie est clair. Le peuple tchadien a choisi la démocratie du côté du peuple tchadien. Le jour où lui-même il va rejoindre le peuple tchadien sur le chemin de la démocratie, il me trouvera à ses côtés comme un frère. Mais dans le cas contraire où il est tenté par la dynastie comme c'est le cas, on n'a rien à faire ensemble parce que jamais ni moi, ni mon peuple ne va accepter la dynastie au Tchad. Le choix est donc là et la rupture, elle est claire et nette. Si c'est la dynastie, alors nous sommes en train de nous acheminer vers deux Tchad parce que jamais je n'accepterai et jamais notre peuple acceptera, en tout cas, que la dynastie soit la règle dans votre pays.
Quand vous dites Dieu Tchad, vous faites allusion à quoi?
Nous faisons allusion au fait que la dynastie n'est jamais acceptable dans notre pays. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas arriver à cette situation de fait de Dieu Tchad. Parce que nous battons pour la démocratie. En face, l'équipe de Mahamat est en train de vouloir imposer aux Tchadiens la dynastie. Donc, vous voyez bien que ces deux démarches totalement parallèles. Nous, nous sommes du côté du peuple qui, dans sa vaste majorité, veut la démocratie. Et donc, c'est ce peuple-là qui constitue le Tchad auquel nous nous croyons. Et donc, nous espérons qu'ils vont nous rejoindre sur ce Tchad-là et que nous allons recoller les morceaux de ces deux Tchads parallèles-là à travers la justice et l'égalité et la démocratie. Si tel n'est pas le cas, je crois qu'au final, ça sera difficile et c'est ça que nous sommes en train de craindre. Nous ne souhaitons pas arriver à ces deux Tchads. C'est pour ça que nous élevons la conscience du monde pour ne jamais arriver à cette situation. Parce que si tel n'est pas le cas, croyez-moi, nous risquons d'arriver à la situation qui sera similaire à celle du Soudan et du Sud-Soudan. Et nous ne souhaitons pas arriver à cela. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que le monde entier soit conscient de ce qui est en train de se passer.
Sekhse Masra, lors de cette manifestation, il est le leader du parti tchadien Les Transformateurs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Maintenant, le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 d'Eric Manirakidza. Le parcours historique du Maroc, porte-drapeau de l'Afrique, s'est arrêté hier mercredi en demi-finale du Mondial 2022 contre la France. Les Bleus défendront dimanche contre l'Argentine de Lionel Messi leur titre en finale, Eric.
Très vite mené au score, le Maroc qui avait envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde a ensuite souvent dominé, notamment en seconde période, face à une équipe de France qui a semblé usée physiquement. Notre consultant sportif Amine Birouk décrit le sentiment des Marocains après la fin de ce duel.
La tête basse et en silence, les 60 000 supporters marocains quittent le stade El Bayt. Quelques minutes plus tôt, ils avaient tenu à applaudir les Lions de l'Atlas au coup de sifflet final de leur demi-finale perdue face à la France. Sur le long chemin qui les mène à la sortie du stade, soit vers les bus navettes qui ont pour destination le métro de Lusail, ou les parkings où se trouvent les taxis ou les véhicules utilitaires, tous discutent avec passion les choix tactiques de Walid Regragui. Leur sentiment aussi entre les regrets d'avoir loupé le coche et la fierté d'avoir poussé les Bleus dans leur dernier retranchement. Dans le vestiaire, le sentiment est similaire. Quelques minutes plus tôt, après avoir reçu une communication téléphonique du souverain marocain, Regragui explique aux médias les raisons de cet échec et de cette symphonie inachevée. Pour lui, les blessures ont lesté l'équipe du Maroc au plus mauvais moment. Du côté des joueurs, un point de détail dans le match le reste en travers de la gorge, à savoir le pénalty non signalé sur Sofiane Boufal qui aurait pu rééquilibrer le match et changer le scénario de ces demi-finales. Ces trois composantes du camp marocain, public, coach et joueurs, se rejoignent dans leur analyse. Tous estiment que l'équipe a tout donné, tous restent persuadés qu'il y avait de la place pour être en finale et tous veulent maintenant aller chercher la troisième place samedi contre la Croatie. Un podium qui adoucira cette soirée du mercredi au Stade El Bayt et qui permettrait au royaume chérifien de figurer dans le palmarès de ce Mondial 2022. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Les Lions de l'Atlas ont gagné le cœur du peuple marocain et au-delà des frontières du royaume chérifien, Romain Saïs, capitaine du Maroc, rend hommage aux supporters. Il s'exprime au micro de notre consultant sportif Amine Birouk.
Je veux juste dire un grand merci à tous les Marocains parce que voilà, ils nous ont été d'une aide très précieuse tout au long de la compétition, que ça soit au Maroc ou ici, tous les supporters présents, nos familles, on a eu vraiment un soutien exceptionnel et on est très fiers de leur faire vivre ce genre de moment. C'est des choses qui arrivent, c'est comme ça, c'est mektoub. Après voilà, alhamdoulilah, on a joué des huitièmes, quart de finale, on a fait de très belles choses, donc ça fait jamais du bien de perdre un match, surtout aux portes de la finale. Mais voilà, je leur ai dit qu'il fallait qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait, que c'est pas fini, surtout qu'il fallait pas baisser la tête et se dire que parce qu'on a perdu, tout est fini. Merci. Et voilà, on a encore un match à aller jouer, une troisième place à aller chercher, donc ça serait bien de rentrer avec au Maroc.
Malgré la défaite, les Marocains sont entrés dans l'histoire. Aucune nation africaine n'était jamais entrée en demi-finale. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ayant échoué in extremis en quart. Tarsis Harerimana, journaliste olympique indépendant et formateur des entraîneurs de football, parle d'un parcours dont peuvent être fiers les Marocains.
Le Portugal est tombé, l'Espagne est tombée, la Belgique est tombée, et la Croatie aussi a été battue. Pour quel parcours ? Et là, le Maroc joue quand même avec le champion en titre. C'est vraiment honorable. Et une équipe du Maroc très fatiguée, mais qui a été très, très courageuse. Moi, je m'attendais à ce que ça soit une sorte de naufrage, mais ce n'est pas ce que nous avons vu. Eric, le Maroc n'a pas démérité les deux buts à zéro encaissés. N'efface pas le talent et la force des Lions de l'Atlas et dire qu'aujourd'hui la chance était plutôt du côté des Français.
Encouragés par le public où leurs supporters étaient nettement majoritaires, les Lions de l'Atlas auraient pu espérer mieux, suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Après sa défaite de 2-0 concédée hier face à la France, le Maroc voit son rêve fou se briser aux portes de la finale de cette Coupe du Monde si atypique. Le but matinal marqué dès la 4e minute par le latéral français Théo Hernandez sur un renvoi inhabituel de la défense marocaine ainsi que la sortie prématurée pour reprise de blessure de son capitaine Courage Romain Saïs dès la 20e minute de jeu confirmait les craintes d'avant-match des spécialistes quant à la fraîcheur physique des joueurs maghrébins pour cette rencontre capitale. Mais le Maroc, obligé de revenir au score, va montrer un visage plus conquérant dans les échanges collectifs et même la création de situations ou d'occasions franches de but qui auraient mérité un meilleur sort. Mais dominer n'est pas gagné. C'est la dure loi du football. Et ironie du sort, le dernier représentant africain concédera le but du break suite à un échange habile entre Kylian Mbappé et Kolo Muani, deux enfants de la seconde génération d'immigrés africains, ce qui va certainement contribuer à alimenter un débat qui couvre dans les chaumières. En attendant, la finale de dimanche entre la France et l'Argentine nous ramène à du classique, avec l'éternel duel Europe-Amérique du Sud que cette dernière compte ramener en sa faveur. À bientôt.
Dans le reste de l'actualité, en RDC, au moins 10 civils ont été tués par des rebelles ADF dans le nord-est du pays, selon des sources locales qui ont critiqué hier les opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises dans la région. Ces 10 personnes, 2 femmes et 8 hommes, ont été tués mardi lors d'une incursion menée par des membres des forces démocratiques alliées dans le village de Nalia, en territoire d'Irumu, dans le sud de la province de l'Ituri, a déclaré Christophe Munyanderu, responsable de l'ONG Convention pour le respect des droits humains. Une autre source a évoqué un bilan non confirmé de 14 morts. Nous regrettons la manière dont le gouvernement congolais gère la situation des ADF, a commenté ce responsable, en s'étonnant que ces rebelles puissent continuer leurs exactions, alors que, selon lui, ils sont bien identifiés et leur position bien localisée. Au Sénégal, le journaliste Pape Alé Niang, critique connu du pouvoir, a été remis en liberté mercredi selon l'un de ses avocats. Sa détention depuis plus d'un mois avait mobilisé la profession et les défenseurs des droits de l'homme. Il avait été arrêté le 6 novembre, puis inculpé le 9 novembre pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires, et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Le point avec Jacques Aristide.
Pape Ali Niang a quitté la prison après la notification par l'administration pénitentiaire de la décision du juge ordonnant sa libération sous contrôle judiciaire, a indiqué maître Cyril Clédor Lee. Un juge du tribunal de Dakar a signé l'ordre de remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire avec retrait du passeport, interdiction de voyager et de communiquer sur le dossier, avait dit plus tôt dans la journée maître Lee. Son client a mis fin mercredi après sa libération à la grève de la faim qu'il avait entamée le 2 décembre pour protester contre son emprisonnement. Mais il est affaibli, a souligné son avocat. Pape Ali Niang avait été évacué dans une clinique privée de Dakar dans la nuit du 9 au 10 décembre à la suite d'une dégradation de sa santé selon sa défense. Il en était ressorti mardi pour être à nouveau conduit en prison d'après la presse locale. Selon les syndicats de la presse, les autorités reprochent à M. Niang, patron du site d'information en ligne Dakar Matin, d'avoir diffusé des messages confidentiels sur le dispositif sécuritaire autour de l'interrogatoire du principal opposant politique Ousmane Sonko le 3 novembre dans une affaire de viol présumé et d'avoir appelé à descendre dans la rue. L'ONG Reporters sans frontières a salué la libération de M. Niang et demandé aux autorités d'abandonner toutes les charges retenues contre le journaliste.
De nouveau avec Idrissa Segouya, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. 49 chefs d'État et de gouvernement africains sont donc à Washington pour le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Idriss Fall a eu à cette occasion un entretien exclusif avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui exprime ici ses attentes pour son pays.
Le Niger attend de ce sommet que les États-Unis écoutent la voix de l'Afrique, qu'ils prennent plus amplement connaissance des problèmes auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous espérons leur écoute et leur engagement en vue de retrouver des solutions. Nous avons la question sécuritaire au Sahel sur laquelle nous proposons de sensibiliser les autorités américaines. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre et avec lesquels j'ai eu des échanges très utiles pour l'avenir. Par exemple, nous sommes confrontés au phénomène du changement climatique avec tous ses effets désastreux sur nos économies, sur nos modes de vie. Je me suis appliqué à expliquer à mes interlocuteurs que la violence terroriste qui prévaut dans le Sahel a partie intimement liée avec le changement climatique parce qu'elle remet en cause le mode de vie pastoral. Nous assistons à une raréfaction des ressources naturelles et une grande compétition sur ces ressources-là. Là également, les États-Unis doivent pouvoir nous entendre pour notamment nous soutenir.
Est-ce qu'il y a eu des promesses au moins?
Non, il n'y a pas eu de promesses. Tous les entretiens que j'ai eus ne sont pas de nature à donner lieu à des promesses, ils sont plutôt dans une phase d'écoute.
Vous sortez mais de la COP27 et vous aviez plaidé aussi la même cause. Et
oui, tout à fait. Voilà, donc nous réitérons ce que nous avons dit à la COP27. Nous disons au gouvernement américain que nous avons besoin de projets d'infrastructures, surtout dans le domaine du chemin de fer, des routes.
Pour aller directement dans la lutte contre le terrorisme, j'ai l'impression que les États-Unis sont déjà présents au Niger.
Oui, tout à fait.
À quel niveau, quelle est l'importance de la présence militaire américaine?
Les Américains interviennent dans la formation de nos forces spéciales, dans leur équipement. Et ils interviennent beaucoup dans le renseignement parce qu'ils ont des drones, juste. Et ils coopèrent surtout avec les Français dans le domaine du renseignement et nos services coopèrent avec les uns et les autres. À Troyes, je pense que nous avons une très belle coordination qui est très utile, qui est efficace, vraiment utile comme je viens de le dire. Les Américains, hier seulement, ils nous ont remis un avion C-130 de transport de troupes. Il y a de cela une année, ils nous en avaient donné un autre. Ce sont des avions qui coûtent extrêmement cher et qui sont très utiles. Nous n'aurions pas pu les acheter nous-mêmes. L'intervention des États-Unis dans notre combat contre le terrorisme est très importante, elle est très utile et efficace.
Mohamed Bazoum, président du Niger. Quelles sont les attentes de la jeunesse africaine par rapport à ce sommet États-Unis-Afrique? Suivons ces propos de nombreux jeunes, notamment Halima Issac de la Somalie, Serigne Bachir Mbour et Idrissa Diagne du Sénégal, Moses Lokomar du Kenya et Sylvia Ferreira du Mozambique, à l'endroit du président américain Joe Biden.
Mon message aux États-Unis et au président Joe Biden est de maintenir la paix et la réconciliation dans le monde, car sans paix, il n'y a pas de vie. Et quand vous maintenez la paix ou répandez la paix, vous êtes une superpuissance. La paix ne vient pas du jour au lendemain, comme nous le savons. Il faut travailler pour bâtir la paix et l'entretenir. Je conseillerais donc au président Joe Biden de répandre la paix et l'harmonie dans le monde afin que nous puissions tous vivre dans un monde pacifique, sans guerre, afin que tout le monde puisse vivre ensemble.
Le message que j'ai pour le président Joe Biden et les États-Unis d'Amérique est que nous aimerions avoir plus de programmes d'échange. Je veux aussi dire que nous devons saluer ce qui existe déjà ici, c'est-à-dire le travail que les États-Unis d'Amérique ont fait en Afrique jusqu'à présent et qui a été vraiment bénéfique. Il faut donc saluer cela et on aimerait avoir plus de programmes comme ça. Merci.
Le message aux États-Unis d'Amérique et au président Biden est d'aider autant que possible les entrepreneurs qui ont accès au visa ici en Afrique et au Sénégal et en même temps d'aider à renforcer les relations entre l'Afrique et le Sénégal en multipliant nos programmes d'échange, notre programme d'échange.
Mon message au président des États-Unis et au gouvernement est de nous aider à lutter contre la corruption. Actuellement, nous avons beaucoup d'argent volé, des propriétés cachées dans les pays étrangers. Nous avons donc besoin de l'aide des États-Unis, d'Amérique, pour amener ces ressources dans notre pays afin qu'elles puissent nous aider.
Je veux laisser un message spécial au président Biden. Monsieur le président, continuez à croire en la jeunesse. Je connais le pouvoir de la jeunesse au Mozambique et je connais le pouvoir de la jeunesse aux États-Unis d'Amérique. Je crois que ces deux nations ont beaucoup en commun, beaucoup de synergies. Continuez à croire en l'avenir, continuez à croire en l'investissement dans la jeunesse et les jeunes.
Ces réactions ont été recueillies par Arzuma Compaoré.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
À l'instar d'autres pays comme la Guinée, l'Érythrée et le Burkina Faso, le Mali n'a pas été invité à ce sommet États-Unis-Afrique. Modibo Dambélé a reçu dans nos studios Souleymane Boubacardia, président du parti politique malien Alliance pour la coordination de la justice et de la solidarité, pour discuter de la situation qui prévaut actuellement dans son pays.
Je suis là dans le cadre d'une visite privée, mais je profite de l'occasion pour rencontrer ma base, la base de notre parti qui est là.
Aujourd'hui, nous constatons un dédain de la population malienne envers les politiques. Qu'est-ce qui explique ce dédain selon vous?
Ce n'est pas uniquement au Mali, hein. Il faut reconnaître que c'est pratiquement dans la sous-région. Enfin, il n'y a plus de confiance entre les acteurs politiques et leur peuple. Bon, c'est dû aux différents problèmes passés. Nous, la nouvelle génération, doit faire de telle sorte que la population puisse avoir la confiance, c'est de trouver un moyen de donner encore un nouvel espoir au peuple. C'est dû vraiment à la mauvaise gouvernance. Donc on ne fait plus confiance aux acteurs politiques, mais il faut reconnaître quand même que chacun de nous a une part de responsabilité là-dedans.
Coup d'État aussi rime également avec mauvaise gestion, comme vous venez de le dire. Et qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la CGS?
Au niveau de notre parti, bon, on est tous unanimes là-dessus quand même que le coup d'État est un acte qui n'avance pas un pays. C'est dû à la mauvaise gouvernance. Une fois que le peuple est frustré contre les autorités, ça amène une frustration, un soulèvement, une révolution. C'est dû à la mauvaise conscience. Quand les gens qui sont au pouvoir essaient de s'accaparer du bien public, du contribuable. Donc vraiment, ça, c'est une chose quand même à laquelle nous devons tous essayer de lutter contre ça pour éviter quand même qu'il y ait des coups d'État dans nos différents pays, des coups d'État successifs.
Quelles sont vos propositions de solutions pour éviter les coups d'État cycliques?
Ce que nous proposons, vraiment d'abord, dans un premier temps, nous demandons aux acteurs vraiment d'avoir une prise de conscience. Il faut quand même que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons honnêtes avec le peuple. Parce qu'une fois quand même que nous sommes à la recherche pêche à la conquête du pouvoir. Nous venons, nous faisons des belles promesses. Hein. Nous disons tout ce que le peuple veut entendre. Et maintenant, arriver au pouvoir, c'est autre chose. Donc vraiment, il faut éviter cela. Comprenez également aussi que le pouvoir doit être partagé avec le peuple. Le pouvoir doit être partagé avec l'ensemble des acteurs, que ce soit politique, que ce soit la société civile. Voilà. Donc, et non, pensez quand même que c'est un régime familial. Donc vraiment, il faut éviter cela. Et puis qu'on évite également aussi, une fois qu'on organise des élections, qu'on évite de faire le choix pour dire que voilà, les autorités qui sont là aujourd'hui ou bien les autorités actuelles trouvent quelqu'un, se mettent en accord commun pour choisir un candidat à la place du peuple. Donc il faut éviter ce genre de choses. Donc la CGS pense quand même qu'il faut laisser le peuple choisir et puis il faut respecter le choix du peuple.
Le Mali a plus de 200 partis politiques. Aujourd'hui, est-ce que le Mali a-t-il besoin de 200 partis politiques? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire?
Sans mentir, le Mali n'a pas besoin de 200 partis politiques parce que moi-même, j'ai fait partie. Donc maintenant, la solution que nous pouvons trouver, les partis qui ont été créés quand même, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est de trouver un moyen, comme on l'a si bien dit, selon la nouvelle constitution. Les partis qui convergent dans le même sens peuvent essayer de se réunir. Mais c'est une chose qui va être difficile. C'est vraiment de faire confiance au peuple, plutôt à ces différents acteurs qui sont là. Ceux qui sont passés quand même, eux aussi, comprennent quand même qu'ils doivent céder la place à la nouvelle génération. En mettant l'intérêt commun du pays, chacun pense quand même qu'il a la solution.
Souleymane Boubacar Dia, président du parti politique malien Alliance pour la coordination de la justice et de la solidarité, dans les studios de VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
En République démocratique du Congo, plus de 140 morts mardi à Kinshasa suite aux pluies diluviennes qui sont abattues sur la ville. Selon le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a annoncé ce bilan mardi soir, un deuil national de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national pour pleurer ses morts. Daniel Asselo a aussi annoncé la décision du gouvernement de détruire toutes les constructions sur les terrains accidentés. Face aux énormes dégâts enregistrés, la société civile réclame des sanctions. Les détails avec Alex Katikatai, notre correspondant à Kinshasa.
Sur des images qui circulent dans les réseaux sociaux depuis mardi en fin de matinée, des scènes de désolation, des maisons inondées, des personnes qui s'accrochent à presque rien pour ne pas couler avec les torrents, des corps sans vie repêchés des eaux et des décombres. Kinshasa est en deuil. Sur instruction du président Tshisekedi, un deuil national de 3 jours est décrété pour pleurer les plus de 141 morts, affirme Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
L'organisation d'un deuil national pour 3 jours. Le Congo est en deuil. L'option vient d'être levée pour que ce deuil-là se fasse à travers des communes. Nous allons fixer des sites effectivement pour ne pas contraindre nombreuses familles à pouvoir se déplacer de chez elles et venir à un seul endroit.
La ville a connu une pluviométrie anormale en cette seule nuit du mardi, selon la Metelsat. C'est la plus forte pluviométrie en une seule journée de ces 30 dernières années, affirme l'agence dans un communiqué. La Metelsat précise qu'en cette seule nuit, plus de 150 000 litres d'eau sont tombés à Kinshasa. Un record pour une journée. La société civile appelle à des sanctions face aux dégâts énormes enregistrés. Jonas Tombela, de la nouvelle société civile du Congo.
Nous pensons qu'il y a une bonne part de responsabilité de l'État congolais à travers son ministère des Affaires foncières, urbanisme, tous ceux qui s'occupent de toutes ces questions liées au lotissement.
Après une réunion mardi soir entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et le gouverneur de Kinshasa, le gouvernement a décidé de la démolition de toutes les constructions sur les terrains accidentés. Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi.
Les chances de voir cette énième décision de destruction des logements anarchiques s'exécuter restent minimes. On observe souvent dans ce genre de situation un bras de fer entre l'autorité provinciale et le gouvernement central. à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on responsabilise le gouvernement central. Godé Mpoi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
La ville de Kinshasa n'a aucun pouvoir de démolir des maisons sans les visas du gouvernement central. Toutes ces constructions anarchiques sont couvertes par les arrêtés du gouvernement central.
Les obsèques des victimes seront prises en charge par le gouvernement central. Le président Tshisekedi a même écourté son séjour de travail aux États-Unis pour venir faire le deuil avec sa population, affirme la présidence de la République. Alex Katikatai, Kinshasa, VO Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi.